Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier. Les enjeux qui s'intéressent à la francophonie et politique intérieure mêlée, en tout cas pour le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, puisque c'est en exclusivité sur France 24 qu'il vient d'annoncer il y a quelques heures sa démission et des élections anticipées, alors que commence aujourd'hui à Erevan le sommet de la francophonie. On en parle avec vous, Taline Termination.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. Merci d'être venue, co-directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques à l'INALCO, auteur récemment des Galaxies Markarian, c'est un roman géopolitique, voyage dans les montagnes d'Arménie et bien plus loin, félin fiction. Alors justement, le voyageur et le félin, c'est bien Nikol Pachinian, puisque 5 mois après avoir poussé à la démission l'ancien Premier ministre Sarkissian, le nouveau remet sa place en jeu avec des élections anticipées le 10 décembre. Sur le plan intérieur, c'est une étape politique importante, puisqu'il reste à transformer ce qu'on appelle une révolution de velours en une vraie légitimité tirée des urnes. Le parti de Pachinian est minoritaire pour l'instant. Sur le plan international, c'est aussi peut-être un message fort, puisque Pachinian profite du sommet de la francophonie pour la première fois à Erevan pour mettre en scène le renouveau démocratique qu'il veut incarner. Un coup audacieux, le Premier ministre peut perdre, d'autant que si c'est un appel du pied à la 50aine de chefs d'État francophones présents, eh bien les partenaires privilégiés du petit pays de 3 millions d'habitants du Sud-Caucase restent la Géorgie, puis surtout l'Iran et la Russie qu'il a bien rappelé cette année. En tout cas, la démarche interpelle de la part de celui qui a répété que les changements intérieurs étaient déconnectés de l'extérieur. Comment donc lire le Nikol Pachinian, le nouveau Premier ministre, voit-il loin ou est-il acculé? Votre avis sur cette annonce, donc sur France 24, Taline Termination, au moment du sommet, est-ce que c'est une coïncidence selon vous?
Ah non, c'est sûrement pas une coïncidence, c'est une manière de rendre publique cette décision qui malgré tout était prévisible, je pense. Et donc il s'agit pour Nikol Pachinian de profiter de la vague populaire dont il a bénéficié depuis 5 mois, depuis cette fameuse révolution qu'il a autoproclamée lui-même, révolution de velours. Et donc, en effet, il est un Premier ministre confronté à un Parlement qui, comme vous l'avez dit, est en encore constitué par la majorité de l'ancien parti républicain. Il a besoin donc, dans ce nouveau système, il faut le dire, qui est celui des institutions de la République d'Arménie, c'est-à-dire une constitution amendée et qui a transformé l'Arménie de régime présidentialiste en un régime parlementaire, en quelque sorte Pachinian, après la révolution entre guillemets d'avril, enfin, est venu habiter ce système, et donc maintenant il a besoin effectivement d'un parlement qui lui soit acquis, alors que lui-même était issu d'une petite fraction parlementaire dont le contrat civil d'ailleurs n'était que membre, donc il était issu d'une petite fraction qui comptait à peine 6 ou 7 sièges. Il a donc besoin de former cette majorité. Pour ce faire, il dispose toujours, semble-t-il, du pouvoir de la rue, de la pression de ce peuple auquel il se réfère sans cesse, tel presque une sorte de leader populiste, dirait-on aujourd'hui. Et il est porté à croire qu'il est encore porté par cette vague, par les récentes élections municipales de Yerevan, qui ont eu lieu il y a quelques jours.
Le 23 septembre, je crois. Ouais.
Voilà. Et donc, lors de ces élections, c'est en effet un membre de son parti à lui, non même pas de la coalition parlementaire, du parti Contrat Civique, qui donc a été porté, enfin avec un score absolument incroyable de 80% des voix, enfin porté donc au pouvoir, et ça semble donc être le signe, puisque Yerevan est quand même la grande cité-état d'Arménie. Je rappelle que théoriquement c'est un tiers de la population de l'Arménie, qui est un tout petit territoire. Eh bien, il est donc porté à croire que le même genre de vague lui donnerait donc un parlement acquis dans le cas de ces élections anticipées. Donc je pense que ce double calendrier, plus celui de la francophonie et la venue d'Emmanuel Macron, dont on peut souligner qu'il est lui aussi aux prises avec quelques histoires de remaniements gouvernementaux, eh bien donc c'est ce moment qu'il choisit pour annoncer cette démission qui est nécessaire encore une fois, pour entraîner le processus de la dissolution du Parlement et la tenue d'élections anticipées au mois de décembre. Ah chose bon, ah. à laquelle le Parti républicain se refusait, puisque le Parti républicain comptait des élections en mai.
Ce parti très majoritaire en Arménie, donc à voir si ce 10 décembre la stratégie de Nicole Pachinian est validée. Sur son bilan, juste un mot avant qu'on parle de l'étranger, il a notamment mis en avant, et c'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir, la lutte anticorruption. Alors on sait d'après les articles qu'il y a une campagne un peu tous azimuts qui a été lancée, une multiplication de l'enquête de la part du parquet dans tous les secteurs, écoles, secteurs politiques, armées aussi. Quel bilan est-ce qu'on peut en faire? Quelle information on a?
Écoutez, ce sont des informations très sélectives pour une campagne anticorruption qui me semble, comme ça, vue de Paris, elle aussi, pour l'instant, très sélective. C'est-à-dire que ça n'est... Alors, on nous signale à la fois des mesures anticorruption et même, on évoque parfois, évidemment, c'est plutôt dans la bouche des détracteurs de Pachinian, des espèces de purges qui interviendraient dans tous les secteurs de la société, paraît-il, à tous les niveaux, mais ce dont il a été fait publicité, à coup de vidéos d'ailleurs, ce sont plutôt effectivement des scandales touchant des grands militaires victorieux du Karabakh, avec des histoires de rations de soldats détournées pour nourrir des eaux personnelles, enfin des choses comme ça extrêmement choquantes. Mais en même temps, on peut dire que dans beaucoup d'États post-soviétiques, ce genre d'événements sont un peu surjoués pour justement aller dans le sens de la légitimation du nouveau pouvoir. Le directeur des archives aussi a été un temps inquiété, puis finalement ne l'est plus. J'ai comme ça quelques exemples dont il n'a pas été fait une grande publicité dans la presse, mais qui signalent en effet cette volonté de lutte anticorruption. En même temps, c'est beaucoup d'effets d'annonce. L'Arménie est un pays pauvre. Comme bien d'autres exemples, on ne peut pas lutter contre la corruption s'il n'y a pas des mannes d'argent qui se déversent sur l'État permettant d'augmenter les salaires. Et comme cela a été par exemple le cas dans du ministère de l'Intérieur en Géorgie ou les secteurs de la police, etc. À ma connaissance, pour l'instant, Pachinian n'a absolument pas récolté les moyens d'une véritable lutte anticorruption. Il n'a pas les moyens d'administrer à la société arménienne ce médicament qui est tout simplement la hausse des salaires.
Un taux de pauvreté de 30%, je crois, et un taux de croissance prévu à 3,2%. Apparemment pas assez pour résorber cette pauvreté, disent les économistes. Intéressant dans cette campagne anticorruption, c'est qu'elle a aussi mêlé un certain nombre de gens impliqués dans l'élection de 2008 où il y avait eu des fraudes qui ont été arrêtées, notamment le cas de Yuri Khatchaturov, ancien vice-ministre de la Défense. Intéressant pourquoi? Parce qu'il a mis aux prises le Kremlin et puis Erevan d'un autre côté, où finalement le Kremlin a obtenu la remise en liberté de cet ancien vice-ministre. Est-ce que ça veut dire que la Russie est plus attentive, moins débonnaire, comme le disaient les articles, qu'on ne croyait à la situation en Arménie?
La Russie a observé les événements d'Arménie d'abord de manière assez circonspecte. On peut dire, pour aller très vite, que ce que craignent les Russes, c'était un scénario de révolution de couleur, téléguidé, pense-t-elle, par des instances hostiles, je dis pêle-mêle, les ONG, la Fondation Soros, les États-Unis, la CIA, tout ce qu'on voudra. Donc on n'a pas au départ trouvé de symptômes de ce genre de choses dans les débuts de la révolution de Pachinian, pour laquelle je choisirais volontiers le terme de révolution auto-limitée, parce qu'il a fait cette révolution tout en disant attention, attention, nous restons quand même les amis des Russes, notre amitié éternelle avec la Russie reste valable. C'est aussi parce que le peuple veut ça. Le peuple a une espèce de tropisme russe qui est quand même assez indélébile. Donc pour en revenir à votre question, oui, en effet, bon, le ministre de l'Intérieur, mais aussi l'ex-président Robert Kocharyan, qui quand même a été mis en prison pendant une quinzaine de jours cet été. Et c'est à ce moment-là que le ton a monté entre Lavrov et les autorités arméniennes. Puisque Kocharyan, alors c'est le représentant de l'homme politique arménien qui a fait sa carrière à partir du Karabakh et puis ensuite qui a conquis une position dominante en Arménie. Et Kocharyan, donc l'ami des Russes, et Lavrov, là cette fois-ci est intervenu. Je pense qu'en fait la motivation des Russes, ça n'est pas un entrisme direct parce que la politique russe n'en a pas besoin, mais elle ne veut pas d'une Arménie déstabilisée dans la région, dans une région régions quand même moyen-orientales où les Russes interviennent. La Syrie n'est pas très loin. Et en plus, l'Iran est de nouveau dans le collimateur des Américains. Et donc, une déstabilisation de l'Arménie, ça ne serait objectivement pas une bonne chose.
Eh bien, merci beaucoup. On aura l'occasion de reparler après ce sommet des ambitions, disons, francophones de l'Arménie, de la proximité avec l'Iran également. Mais merci pour ces explications aujourd'hui. Taline Termination, je renverrai nos lecteurs à votre livre, ce roman Les Galaxies, Marc Arian aux éditions Félin Fiction. Merci beaucoup.
Merci à vous.